Nous y voici, dit Barbe-Bois, rompant son long silence. Je vous ai porté sur environ 70 000 foulées d'Ent, mais j'ignore ce que cela représente selon la mesure de votre pays. Toujours est-il que nous sommes aux racines de la dernière montagne. Une partie du nom de cet endroit pourrait se dire Fontenay, si on le traduisait dans votre langue. J'aime bien. Nous logerons ici cette nuit. »
Il les déposa sur l'herbe entre les rangées d'arbres, et les hobbits le suivirent vers la grande arche. Ils remarquèrent alors que ses genoux se pliaient à peine tandis qu'il marchait, mais ses jambes s'ouvraient en une longue foulée. Ses grands orteils, et ils étaient certes énormes mais aussi très larges, se plantaient dans le sol avant toute autre partie de son pied. Pendant un moment, Barbe-Bois se tint sous la pluie de la chute, respirant profondément. Puis, il rit et passa à l'intérieur. Une grande table de pierre se trouvait là, mais il n'y avait pas de chaise. Au fond de l'alcôve, il faisait déjà bien sombre. Barbe-Bois prit deux grands vaisseaux et les déposa sur la table. Ils semblaient remplis d'eau, mais lorsqu'il plaça ses mains au-dessus, ils se mirent aussitôt à luire, le premier d'un éclat doré, l'autre d'une riche lueur verte. Et le mélange de lumière éclaira l'alcôve comme un soleil d'été à travers une voûte de jeunes feuilles. Se retournant, les hobbits virent que les arbres dans la cour avaient eux aussi commencé à luire, faiblement au début, mais avec une ardeur croissante, jusqu'à ce que chaque feuille fût bordée de lumière. Verte pour certaines, dorée pour d'autres, ou encore d'un rouge cuivré, tandis que leurs fûts ressemblaient à des colonnes sculptées dans du roc lumineux.
« Bien, bien, nous pouvons continuer à bavarder à présent, » dit Barbe-Bois. « Vous avez soif, je présume. Peut-être êtes-vous fatigué également. Buvez ceci. »
Il se rendit au fond de l'alcôve et ils virent alors que plusieurs jarres de pierre étaient posées à cet endroit, hautes, munies de lourds couvercles. Découvrant l'un des récipients, il y plongea une énorme louche. Puis, il remplit trois bols, dont un très grand et deux autres plus petits.
« Ceci est une maison d'Ent, » dit-il, « et il n'y a pas de siège, hélas. Mais vous pouvez vous asseoir sur la table. »
Soulevant les hobbits, il les installa sur la grande dalle de pierre à 6 pieds au-dessus du sol. Ils s'y assirent, balançant leurs jambes dans le vide et sirotant leur boisson. Cette boisson était semblable à de l'eau, très semblable en fait à l'eau qu'ils avaient bue dans l'antévière près de l'Orée. Pourtant, elle avait un parfum ou une saveur qu'ils ne parvenaient pas à définir, très subtile, mais qui leur rappelait l'odeur d'un bois lointain porté par une fraîche brise nocturne. L'effet du breuvage commençait aux orteils et montait peu à peu dans chaque membre, redonnant fraîcheur et vitalité dans sa course vers le haut jusqu'à l'extrémité des cheveux. Les hobbits sentirent d'ailleurs leur chevelure se dresser sur leur tête et se mettre à onduler, à friser et à pousser. Barbe-Bois, quant à lui, se lava d'abord les pieds dans le bassin situé sous l'arche, puis il vida son bol d'un seul trait, long et lent. Les hobbits crurent qu'il ne s'arrêterait jamais de boire. Enfin, il posa son bol.
Ah,
fit-il.
Maintenant, nous serons plus à l'aise pour bavarder. Vous pouvez vous asseoir par terre et je vais m'étendre. Cela empêchera cette boisson de me monter à la tête et de m'endormir.
Dans le coin droit de l'alcôve se trouvait un grand lit assez bas sur pied, couvert d'une épaisse couche de fougères et d'herbes sèches, mais qui ne devait pas faire plus de 2 pieds de haut. Barbe-Bois s'y allongea lentement, avec une légère flexion du bassin tout au plus, jusqu'à être complètement étendu, les bras derrière la tête, de manière à regarder le plafond où la lumière dansait comme le soleil jouant sur les feuilles. Merry et Pipin s'assirent auprès de lui sur des coussins d'herbe.
« Maintenant, « racontez-moi votre histoire et prenez votre temps, » dit Barbe-Bois.
Les hobbits lui firent alors le récit de leurs aventures depuis leur départ de Hobbitville, sans ordre particulier, car ils ne cessaient de s'interrompre l'un l'autre, et Barbe-Bois arrêtait souvent le raconteur pour revenir sur un point précédemment abordé ou pour faire un saut en avant et les interroger sur la suite des choses. Ils ne firent pas la moindre allusion à l'anneau et ne lui dirent jamais pour quelle raison ils étaient partis ni où ils allaient, et il ne demanda pas à le savoir. Tout l'intéressait au plus haut point. Les cavaliers noirs, Elrond et Fandeval, la vieille forêt et Tom Bombadil, les mines de Moria, la Lothlorienne et Galadriel. Il leur fit décrire le comté et ses terres plus d'une fois. Il eut alors une curieuse remarque.
« Vous ne voyez jamais... jamais Dent par là-bas, à tout hasard ?»
demanda-t-il.
« Enfin, pas des Ents femmes, devrais-je dire en réalité. »
« Des Ents femmes ?» dit Pipin. « Est-ce qu'elles vous ressemblent un tant soit peu ?»«
Oui, enfin non, je ne le sais plus très bien, » dit Barbe-Bois d'un air pensif. « Mais votre pays leur plairait, alors je me demandais, voilà tout. »
Barbe-Bois néanmoins sembla particulièrement intéressé par tout ce qui concernait Gandalf, et encore plus par les faits et gestes de Saruman. Les hobbits étaient bien désolés d'en savoir si peu de choses, tout au plus un assez vague compte-rendu de Sam leur rapportant ce que Gandalf avait dit au conseil. Ils avaient au moins une certitude, Ugluk venait d'Isengard, et lui et sa troupe parlaient de Saruman comme de leur maître. Fit Barbe-Bois quand, après maints tours et détours, leur récit parvint enfin à la bataille entre les orques et les cavaliers du Rohan.
« eh bien, que de nouvelles vous m'apportez là? Vous ne m'avez pas tout dit, oh non, loin s'en faut, mais je suis bien sûr que vous agissez comme Gandalf l'aurait souhaité. Il se passe quelque chose de considérable, ça je le vois bien, et j'apprendrai peut-être ce que c'est, à la bonne heure ou à la malheur. Mais Racine et Rami, que c'est étrange tout ça, un petit peuple surgit de terre qu'on ne trouve pas dans les listes anciennes, et voici que les 9 cavaliers oubliés réapparaissent pour les prendre en chasse. Gandalf les emmène dans un long voyage, puis Galadriel les héberge à Caras Galadon, et des orques les poursuivent à travers toute la contrée sauvage. À n'en pas douter, ils semblent pris dans une grande tempête. J'espère qu'ils passeront au travers.
« Et vous-même alors ?» demanda Merry.
« Je ne me suis jamais soucié des grandes guerres, » dit Barbe-Bois. « Elles concernent surtout les elfes et les hommes. C'est l'affaire des magiciens. Les magiciens, eux, se soucient constamment de l'avenir. Pour ma part, je n'aime pas m'en inquiéter. Je ne suis véritablement du côté de personne, car personne n'est véritablement de mon côté, si vous voyez ce que je veux dire. » Personne ne se soucie des bois comme je m'en soucie, pas même les elfes de nos jours. Reste que je m'attache plus facilement aux elfes qu'à d'autres. Ce sont les elfes qui nous ont guéris de notre mutisme il y a fort longtemps, et c'est un don immense qui ne peut s'oublier, bien que nos chemins se soient séparés depuis. Et il est des êtres du côté desquels je ne suis véritablement pas. Je suis véritablement contre ces bourrarums.
Il y eut un nouveau grondement de dégoût.
Ces orques et leurs maîtres. Je m'inquiétais autrefois de l'ombre qui planait sur Grand-Peur, mais quand elle a fui au Mordor, j'ai arrêté un temps de m'en soucier. Le Mordor est bien loin d'ici. Mais il semble qu'un vent d'est s'installe, et peut-être tous les bois viendront-ils bientôt à se faner. Il n'est rien que puisse faire un vieil Ent pour repousser cette tempête. Il doit résister ou craquer. Mais là, Saruman... Saruman est un voisin, je ne puis l'ignorer. Je dois faire quelque chose, j'imagine. Je me suis souvent demandé ces temps derniers, que faire de Saruman ?
Qui est-il ? Demanda Pipin. Savez-vous quelque chose de son histoire ?
Saruman est un magicien, répondit Barbe-Bois. Je ne saurais vous en dire davantage, je ne connais pas l'histoire des magiciens. Ils sont apparus après l'arrivée des grands navires ayant traversé la mer. Mais je n'ai jamais pu vérifier s'ils sont venus sur les navires. Saruman était compté parmi les grands de cet ordre, il me semble. Il a cessé de parcourir les terres et de s'occuper des affaires des hommes et des elfes il y a quelque temps de cela. Vous diriez que c'était il y a très longtemps. Et il s'est installé à Angrenost ou Isengard, comme disent les hommes du Rohan. Il était très effacé au début, mais sa renommée ne tarda pas à grandir. Il fut choisi pour diriger le Conseil Blanc, à ce qu'on raconte, mais ça n'a pas trop bien marché. Je me demande à présent si, même alors, Saruman n'était pas en train de se tourner vers le mal. En tout cas, à cette époque, il n'embêtait pas ses voisins. J'avais coutume de lui parler. Il fut un temps où il se promenait souvent dans mes bois. Il était poli alors, demandant toujours ma permission, du moins quand il me rencontrait, et toujours avide d'écouter. Je lui dis bien des choses qu'il n'aurait jamais découvertes par lui-même, mais il ne me rendit jamais l'appareil. Je n'ai pas souvenir qu'il m'ait jamais confié quoi que ce soit. Et il devenait toujours plus fermé, son visage, comme je me le rappelle, il y a maintes et maintes journées que je ne l'ai vu, devint comme un mur de pierre troué de fenêtres, des fenêtres à volets fermées de l'intérieur. Je pense maintenant comprendre ce qu'il fabrique. Il complote pour devenir une puissance. Sa pensée est faite de métal et de rouages, et il ne se soucie pas des choses qui poussent, sauf dans la mesure où elles peuvent lui servir dans l'immédiat. Et il est clair désormais que c'est un traître infâme et noir. Il s'est ligué avec ces êtres ignobles, avec les orques. Boum, boum, pire encore, il leur fait subir quelque chose de dangereux. Car ces Isengardiens ressemblent davantage à des hommes mauvais. C'est la marque des êtres maléfiques venus sous la grande obscurité de ne pouvoir endurer le soleil. Or, les orques de Saruman le peuvent, même s'ils le détestent. Je me demande ce qu'il leur a fait. Sont-ce des hommes qu'il a fait déchoir, ou a-t-il mêlé la race des orques à celle des hommes ? Ce serait un noir forfait.
Barbe-Bois gronda quelques instants, comme s'il prononçait quelque malédiction entesque, profonde et souterraine.
J'ai commencé à me demander, il y a quelque temps, comment il se faisait que des orques osent traverser mes bois avec autant d'aplomb, reprit-il. Ce n'est que récemment que j'ai compris que Saruman était responsable, qu'il était venu fouiller les coins et recoins il y a toutes ces années, découvrant mes secrets. Lui et ses ignobles bandits font des ravages maintenant. Ils abattent des arbres près des frontières, de bons arbres. Parfois ils les coupent et ils les laissent pourrir sur place. Simple méchanceté d'orques. Mais la plupart sont tronçonnés et emportés pour alimenter les feux d'Ortank. Un panache de fumée s'élève toujours au-dessus d'Isengard de nos jours. Maudit soit-il, racines et branches! Bon nombre de ces arbres étaient mes amis, des êtres que je connaissais depuis la noix ou le gland, et nombre d'entre eux avaient leur voix propre, perdue à jamais maintenant. Et il n'y a plus que des souches et des ronces là où se trouvaient naguère des bosquets chantants. J'ai été oisif, j'ai laissé les choses empirer. Il faut que ça cesse.
Barbe-Bois se redressa d'un mouvement brusque et se leva de son lit. Il tapa sur la table avec force. Les vases de lumière tremblèrent et lancèrent deux jets de flammes. Un feu verdâtre étincela dans ses yeux, et sa barbe se raidit comme un grand balai de bouleau.
« Je vais y mettre un terme, » tonna-t-il, « et vous allez venir avec moi. Vous pourriez être en mesure de m'aider. Ce faisant, vous aiderez aussi vos amis à vous, car si personne n'arrête Saruman, le Rohan et le Gondor auront un adversaire derrière eux aussi bien que devant. Nos chemins mènent au même endroit, à Isengard. »
« Nous viendrons avec vous, » dit Merry. « Nous ferons notre possible. »« Oui, » dit Pipin. « Je voudrais bien voir la chute de la main blanche. J'aimerais être là, même si je ne servirais pas à grand-chose. Je n'oublierai jamais Ougluk et la traversée du Rohan. »«
Bien, bien, » dit Barbe-Bois. « Mais j'ai parlé trop hâtivement. Il faut nous garder d'être hâtifs. Je me suis trop échauffé. » Je dois me calmer et réfléchir, car il est plus facile de crier « Hola !» que de le mettre, si vous voyez ce que je veux dire. »
Il s'avança à grands pas jusqu'à l'arche et se tint quelque temps sous le rideau de pluie du ruisseau. Puis il rit et se secoua, et partout où les gouttelettes d'eau scintillantes tombaient sur le sol autour de lui, elles luisaient comme des étincelles rouges et vertes. Il regagna son lit, se recoucha et retomba dans le silence.